Radio pour l'UNESCO.
Pour une culture de la paix.
Tu vois la personne, il sourit, sa façon de sourire. Il sourit parce qu'il veut la paix. Sa façon de marcher, il marche pour la paix. Sa façon de donner, aider, c'est pour qu'il y ait la paix. Je chante pour ces gens-là, pour qu'il y ait la paix.
Oui, il est Totoko, bébé balala.
Janvier 2017, l'équipe de Médias Communs était à la Maison du Journalisme à Paris pour interviewer Élise Ngabire, grande reporter politique burundaise en exil en France. Elle évoque au micro de Radio pour l'UNESCO la situation extrêmement tendue dans son pays depuis les dernières élections.
Oui,
bonjour, je m'appelle Élise Ngabire, je suis journaliste burundaise exilée en France depuis septembre 2015. Je suis arrivée dans un contexte un peu particulier après la destruction des médias burundais, des médias privés burundais. Moi, je travaille toujours pour un groupe de presse qui s'appelle Iwachu. Iwachu, si j'essaie de traduire, c'est chez nous. Iwachu, j'ai travaillé depuis 2008 comme journaliste et politique. Et puis, une année après, j'ai été désignée comme chef de la rubrique politique. Et j'ai exercé depuis 2008 jusqu'à 2015, avant que je ne quitte le pays. Et là, j'aimerais peut-être faire une précision. Iwachu, le groupe de presse Iwachu n'a pas été détruit comme les autres médias, comme les autres médias privés. Ben, je ne sais pas pourquoi, mais il se pourrait qu'ils nous ont oubliés, ils ont oublié de le détruire. Mais du coup, le pouvoir a essayé de l'affaiblir en menaçant directement certains journalistes, dont moi-même, et le directeur des publications du groupe de presse Iwachu, Antoine Kaburahe, qui a été convoqué à deux reprises, accusé d'avoir participé dans la tentative de coup d'État du 13 mai 2015. Et avec la deuxième convocation, il a dû s'exiler en Belgique. Et voilà, moi j'avais rédigé des articles où je critiquais justement les promesses qui étaient tenues par le président de la République lors de l'investiture de son troisième mandat illégal. Et du coup, ces services de communication, les services de communication de la présidence de la République m'avaient menacé directement. Et j'ai échappé à trois fois. Et j'ai décidé alors de quitter le pays quand j'ai constaté que je risquais ma vie là-bas.
Donc en effet, une situation extrêmement dangereuse pour les journalistes au pays, notamment dernièrement un de tes collègues qui a été assassiné.
Mm-hmm. Le groupe de presse Iwachu, je disais qu'il n'a pas été détruit comme les autres médias privés burundais, mais du coup, le pouvoir a essayé de l'affaiblir. Je trouve que c'est le mot approprié, l'affaiblir, en chassant, en menaçant directement certains journalistes, dont moi-même. Et je dois vous apprendre que au mois de juillet, il y a un collègue qui s'appelle Jean Wigirimana, qui a disparu comme ça. Sa famille l'a attendu, Iwachu l'a attendu, et puis voilà, ça va faire 6 mois que Iwachu et sa famille sont sans ses nouvelles. Et là, je ne doute pas. Moi, je peux aujourd'hui l'affirmer. Il a été assassiné. Quand on essaie de recouper les informations qui ont été données au lieu où il a été enlevé, Jean Wigirimana n'est plus de ce monde. Et puis on a trouvé les journalistes d'Iwachu Ils ont eu le courage de faire une enquête. Ils ont trouvé deux cadavres qui jonchaient dans une rivière aux alentours du lieu où il a été enlevé. Ils étaient en décomposition. On n'a pas su les identifier. Et c'est dans ce contexte-là qu'on dit que les journalistes burundais aujourd'hui qui travaillent, ils ont du courage. C'est pourquoi ils ont besoin d'un soutien.
Ils travaillent au péril de leur vie, comme toi tu as pu le faire.
C'est ça. Oui. Ils travaillent au péril de leur vie, tout en voulant informer le monde. Parce que si tout le monde doit se taire comme le veut le pouvoir de Bujumbura, là, ça sera le chaos. Et le rôle du journaliste étant d'informer et de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Je trouve qu'aujourd'hui, les journalistes qui se sacrifient pour continuer à exercer méritent d'avoir le soutien du monde entier.
Est-ce que tu peux préciser pour les auditeurs, donc, qu'est-ce qui s'est passé au moment du passage au troisième mandat, qui est illégal dans cette région ?
Le Burundi est un pays qui a connu des crises, mais avec l'accord d'Arusha qui a été signé en 2000, avec la signature de deux accords de cessez-le-feu avec les anciens mouvements rebelles, la guerre était terminée, et puis on est passé aux élections, les premières élections après la crise de 93, c'était en 2005, des élections qui ont porté au pouvoir l'ancien mouvement rebelle CNDD-FDD. Et c'était le calme depuis 2005 jusqu'en 2010, où il y a eu d'autres élections qui ont été contestées par une partie des opposants burundais. Et du coup, comme l'opposition n'a pas pu démontrer comment la fraude électorale a pu se passer, le pouvoir Nkurunziza a brigué son deuxième mandat qui s'est terminé en 2015. Et du coup, comme la loi, l'accord d'Arusha et la constitution sont clairs en la matière sur le nombre de mandats à briguer, il ne devrait pas briguer son troisième mandat et il a forcé. Et voilà qu'en 2015, les partis de l'opposition burundais, les activistes de la société civile avaient annoncé que si son parti le désigne comme candidat, ils vont descendre dans la rue. Chose promise, chose due. Le 25 avril, son parti a tenu un congrès qu'il a désigné. On s'y attendait, tout le monde s'y attendait. Et le lendemain, le 26 avril, la population est descendue dans la rue. Il y a eu des manifestations qui ont été réprimées dans le sang. Et le 13 mai 2015, il y a eu tentative de coup d'État. Et cette tentative de coup d'État a fait qu'il y ait que le général putschiste a voulu ouvrir la radio RPA. RPA, c'est la radio publique africaine, une radio qui était très écoutée par la population burundaise, mais qui a dû être fermée quelques jours avant la tentative de coup d'État. Et comme le général, son premier acte a été d'ouvrir la radio RPA, les autorités burundaises ont estimé que, à tort, que les médias avaient collaboré dans cette tentative et ils ont brûlé 6 médias privés burundais. Moi, je travaille pour un groupe de presse Iwachu. Iwachu, c'est synonyme de, si j'essaie de traduire, c'est chez nous. Iwachu n'a pas été détruit, non pas par amour, mais parce qu'ils l'ont oublié. C'est ça l'hypothèse que j'essaie de formuler, si je tiens compte de ce qui s'est passé après, parce que le pouvoir a tenté de l'affaiblir en menaçant directement certains journalistes, dont moi-même, je suis la première victime. Après, il y a mon directeur des publications du groupe de presse Iwachu qui a été convoqué et qui était accusé d'avoir collaboré avec les putschistes le 13 mai. Voilà, j'arrive ici en France le 20 septembre 2015. Là, j'avais échappé 3 fois à la mort. J'avais rédigé des articles critiques par rapport aux promesses tenues par le président Nkurunziza lors de sa prestation de serment. Et puis, ces articles n'ont pas plu au pouvoir, au service de communication de la présidence de la République. J'ai reçu des menaces directes qu'on peut trouver toujours sur Internet. Et après, j'ai eu des messages de menaces. Et après, c'était la poursuite par des jeunes Imbonerakure. Les jeunes Imbonerakure, c'est une milice du parti au pouvoir. J'ai échappé à 3 reprises et puis j'ai constaté que ma vie était en danger et j'ai décidé de quitter le pays. Et j'arrive ici en France le 20 septembre 2015 en laissant derrière mes 3 enfants.
Ça a donc été un des premiers actes au moment où donc le président a maté la rébellion, le putsch, c'est d'attaquer les médias, quels qu'ils soient, médias nationaux, médias indépendants, il me semble.
Non.
Non, pardon.
Ça a commencé, les manifestants ont d'abord détruit une radio qui est proche du pouvoir, une radio-télévision qui s'appelle REMA, REMA FM. Ils l'ont brûlée le 13 mai pendant la journée. C'est la première radio qui a été brûlée. Et puis comme une sorte de vengeance, la police et l'armée, quelques éléments de la police et de l'armée, fidèles au pouvoir, se sont emparés des médias privés. Et ils les ont brûlés, des médias privés et non publics.
D'accord.
Oui.
Et du coup, ça a créé des mouvements de panique dans la population qui n'était plus informée. Alors comment ça se passe actuellement, puisqu'il y a eu des déplacements de population massifs? On en est où là actuellement? Est-ce que les gens sont toujours en exil ou est-ce que la situation s'est un peu calmée et les gens sont rentrés?
Avec les manifestations qui ont été réprimées dans le sang, c'était la jeunesse qui était ciblée, la jeunesse des quartiers contestataires de Bujumbura. Il y en a pas mal qui ont été tués. Et ceux qui ont échappé ont dû s'exiler dans des pays frontaliers comme le Rwanda, le Congo, la Tanzanie. Et puis voilà, aujourd'hui, on est à plus de 300 000 réfugiés. Là, je pense que ce sont des réfugiés, il faut compter juste les réfugiés qui sont dans les pays frontaliers, sans compter ceux qui sont partis en Europe, aux États-Unis, au Canada, parce que là, je pense qu'il n'y a pas encore eu d'enquête. Mais si on doit faire le bilan des réfugiés, ça doit dépasser les 300 000. Et du coup, aujourd'hui, l'espace médiatique burundais, il est occupé presque par c'est le journal Iwachu qui reste, qui essaie de faire de son mieux, qui informe à travers la version papier qui sort tous les vendredis et la version en ligne. Il y a plusieurs produits, il y a la web TV et la radio, la web radio, mais ça suffit pas. Parce que Iwachu ne peut pas couvrir tout le pays. Et du coup, il manque là ce travail qui était fait par des confrères, mais qui sont partis juste à côté au Rwanda, et d'autres qui sont ici. Là, je dois vous signaler qu'ici en France, on est une équipe de 10 journalistes burundais réfugiés.
Et donc, vous continuez à travailler et à informer d'ici?
Moi, j'ai continué à travailler, à informer. Parce que là, comme la plupart des opposants politiques se sont réfugiés soit en Belgique, soit en Hollande, soit juste à côté en Allemagne, le peuple burundais a besoin de connaître leurs avis par rapport à ce qui se passe au pays. Et moi, je suis en quelque sorte une correspondante d'Iwachu en Europe et j'essaie de leur fournir ce que eux, ils ne peuvent pas avoir. Voilà comment je continue à exercer. C'est dans ce contexte-là de pouvoir rencontrer ces autres Burundais, cette autre partie des Burundais qui est partie, et pour avoir des idées plus ou moins variées et avoir leur position.
Quelle a été la réaction, ou quelle est la réaction, puisque ce qui est clair, c'est qu'on entend très peu parler de la situation au Burundi depuis ce troisième mandat, donc le démarrage du troisième mandat du président. On a très peu d'informations. Quelle a été la réaction au niveau international, de la communauté internationale, puisque le troisième mandat était clairement illégal. Il me semble que le président a changé la constitution pour rendre ça légal au moment de son investiture.
Au fait, le président n'est pas arrivé à changer la constitution. La constitution, le projet d'amendement de la constitution a été soumis à l'Assemblée nationale quelques jours avant les scrutins. Et paradoxalement, l'Assemblée nationale, qui était majoritairement CNDD, FDD, n'a pas amendé sa révision. Et puis du coup, il a forcé, c'est pourquoi je disais qu'il a forcé, parce que la Constitution ne le lui permettait pas, l'accord d'Arusha non plus, et il a forcé, et il s'est fait élire pour son troisième mandat. Et il y a eu pas mal de réactions de la part des voisins d'abord, comme on dit, la mauvaise linge se lave en famille. Ça a commencé par la communauté est-africaine. Il y a eu pas mal de démarches pour engager un dialogue et puis amener les parties en conflit à s'asseoir ensemble, discuter pour trouver une issue. Mais cela n'a pas marché. Il y a toujours le pouvoir de Bujumbura qui, au moment où ce dialogue allait arriver à quelque chose, le pouvoir de Bujumbura qui se retirait. Et puis du coup, ça se terminait toujours en queue de poisson. Mais maintenant, je dirais que le dialogue qui était engagé avait comme médiateur le président Museveni, en collaboration avec l'ancien président tanzanien, Mkapa. Il est presque bloqué. La communauté internationale n'a pas arrêté d'appeler à l'ordre. Mais du coup, le pouvoir de Bujumbura a fait la sourde oreille. Et ça perdure depuis une année et demie. Et puis on s'interroge, que deviendra ce pays où des gens continuent à mourir. Je pense que vous avez bien suivi. Il y a eu plus de 1000 personnes assassinées pendant des manifestations. Et même après, ça continue, puisque le 1er janvier, il y a un ministre qui a été assassiné en rentrant chez lui. Et il n'est pas le seul. Il y a des autorités, il y a parmi le pouvoir des gens qui ont été, des gens proches du pouvoir qui ont été également assassinés. Et là, je dois vous dire que même son conseiller principal chargé de la communication, il a échappé de justesse. C'est un pays où même les autorités ne sont pas épargnées. Imaginez des gens qui ont des gardes du corps qui sont en insécurité. Qu'en est-il du petit peuple, du petit citoyen qui n'a pas de protection? C'est compliqué, ça devient très compliqué. J'ai suivi depuis le début de la crise, il y a les Nations Unies qui ont voté des résolutions, il y a la France qui a proposé des résolutions pour faire pression sur le Burundi, mais je pense qu'il manque quelque chose, il manque quelque chose pour amener Nkurunziza et le pouvoir de Bujumbura d'obtempérer.
Donc on sent que la diplomatie ne marche pas.
Oui.
Est-ce que vous pensez que la société civile pourrait changer les choses, ou est-ce que on est arrivé à une situation trop dangereuse où il y a trop de pression? Quel scénario pourrait être envisageable?
Aujourd'hui, la société civile est presque inexistante au Burundi. Le pouvoir a essayé d'instaurer un blackout total où les associations ont été radiées. La dernière à subir la radiation, c'est l'ancienne Ligue des droits de l'homme, la Ligue ITEKA, qui vient de sortir un rapport avec la FIDH, un rapport qui montre comment les droits de l'homme sont bafoués au Burundi. Et puis du coup, il y a une semaine, on a annoncé sa radiation. Elle était presque la dernière qui restait au pays. Et puis du coup, c'est un blackout total qui est installé au pays. Dire quelle sera l'issue aujourd'hui, ça serait très compliqué. Vous voyez, c'est devenu presque un syndrome qui, vous voyez, à côté, en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila qui refuse de quitter le pouvoir alors que son mandat a expiré. Vous voyez le président Yahya Jammeh qui a accepté sa défaite, mais après qui refuse de quitter le pouvoir. Nkurunziza, il a été le premier. Et du coup, les autres présidents africains, ils ont vu que la communauté internationale a laissé passer. Et eux aussi, ils ne vont pas quitter. Là, la crainte aujourd'hui, c'est que même d'autres présidents africains qui avaient cette ambition, ils ont déjà vu que la communauté internationale, elle est faible, entre guillemets, elle est faible. Et là, le risque, c'est que l'Afrique tout entière va plonger dans un système dictatorial où aucun président ne voudra plus quitter le pouvoir. Et là, ça, c'est une entorse contre la démocratie. Et pourtant, au Burundi, vous savez que c'était un pays qui, à un certain moment, était un modèle en matière démocratique. Même les médias burundais, on avait une très belle place dans la liberté d'expression. Mais voilà que tout tombe à l'eau à cause d'un seul homme qui ne veut pas partager le pouvoir avec d'autres. C'est pas parce que le peuple burundais ne veut pas de lui, mais c'est question de respecter la loi. Dans son parti, il y a des hommes et des femmes capables, mais que ça soit un seul homme qui gouverne, il y a risque d'instauration de la monarchie, comme ça a été dans le cas, dans le temps.
Et donc, vous continuez ici à informer donc sur, on rappelle, le groupe de presse qui s'appelle ?
Le groupe de presse Iwachu continue d'informer le peuple burundais. Il essaie de faire de son mieux. Ben, c'est une petite fenêtre. On aimerait que les médias détruits puissent rouvrir leurs portes et qu'ils continuent d'informer le peuple burundais et la communauté internationale sur ce qui se passe au pays. Mais les temps, je pense qu'ils sont très, très durs. Le pouvoir se radicalise davantage. Et on se demande, tout le monde se demande ce qui pourra un jour amener le pouvoir Nkurunziza à obtempérer, à comprendre qu'un pays de droit doit laisser les médias travailler, doit laisser la société civile faire son travail. Il y a un risque. Un risque que le pays sombre.
Exil au Rwanda et qui essayent de donner une information, comme géographiquement ils sont plus proches, ils essayent aussi de toucher la population directement. Il y a un média en particulier, est-ce que tu peux nous rappeler son nom ?
Oui. Quand les journalistes burundais des médias privés détruits ont vu que leur sécurité au pays était menacée, ils ont choisi de partir juste à côté au Rwanda. Et une fois là-bas, ils n'ont pas croisé les bras aussi. Ils ont essayé de monter deux radios en ligne, la radio Inzamba et la radio Humura. Ils essaient de travailler, ils continuent d'informer, mais je pense qu'ils sont dans des conditions où ils ont besoin d'un coup de main, de l'aide, parce que là, ils ont dû commencer presque à nouveau, parce que tout étant détruit, tout le matériel étant détruit, ils ont des faibles moyens pour travailler. Ça serait louable qu'il y ait des gens qui pensent à eux en leur fournissant du matériel et des moyens pour pouvoir fonctionner. Quand je dis moyens, là je vois des moyens directement financiers. Il y a déjà l'Union des journalistes burundais, l'UBJ, qui est là. Son président, il est au Rwanda. Et je pense que c'est le moment, plus que jamais, d'aider les journalistes qui sont en exil et même ceux qui sont restés au pays parce qu'ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Moi, je dis toujours chapeau à mes collègues d'Iwachu qui arrivent à travailler dans de telles conditions sécuritaires. Je dois dire qu'il faut avoir du courage pour arriver à exercer dans un pays où tout a été détruit, où la liberté d'expression est menacée. Je pense que c'est le moment où le monde devrait s'intéresser à tous ces gens-là qui se battent pour la liberté d'expression, pour que la liberté d'expression, la liberté des médias soit une réalité.
Parce qu'on a vu que donc, les journalistes sont menacés, les opposants globalement sont menacés, et même au sein de son propre parti, les personnes sont menacées. Oui. Il fait le vide autour de lui. Là.
Oui, oui, oui. C'est ça, il essaie de créer un vide autour de lui, justement pour qu'il empêche tout le monde de s'intéresser à tout ce qui se passe au pays. Vous comprenez, un pays sans médias, un pays sans activistes, un pays sans opposition, vous comprenez dans quelle dictature on est en train de plonger.
Bon, donc on invite les auditeurs, pour avoir des vrais renseignements, à se tourner vers le groupe de presse Iwachu,
c'est ça.
Donc pour avoir des informations.
Pour avoir des informations justes sur ce qui se passe au pays, oui, je les invite d'aller visiter le site du groupe de presse Iwachu. C'est le www.iwachu-burundi.org. Et là, ils peuvent avoir ce qu'il faut comme information. Oui, je le disais tout à l'heure, c'est toute une petite fenêtre, mais qui peut permettre d'avoir une idée globale de la situation au Burundi. Nous sommes réunis ici, nous sommes une équipe de 10 journalistes burundais réfugiés en France. On est en train d'essayer de créer quelque chose pour aider les gens qui ne savent pas ce qui se passe au pays à mieux être informés. Je pense que dans les jours à venir, on pourra vous mettre au courant. Notre projet professionnel est avancé. Même le groupe de presse Iwachu est en train de voir comment créer Iwachu Europe, où on pourra... Ben, ils nous ont chassés, le pouvoir nous a chassés, mais il nous a encore une fois donné la force de travailler. On va pas croiser les bras. On pense qu'il faut... on est en France. Là, on a pas de problème de sécurité. Et puis, on a un réseau de journalistes, que ça soit au pays ou ailleurs, avec qui on peut travailler et continuer à informer sur le Burundi. Là, on a dit on ne peut pas laisser ce pays qui a été un modèle plonger, alors qu'on peut toujours élever notre voix et sauver ce qu'il y a encore à sauver.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Le site de l'Union des journalistes, l'UPJ.
L'UPJ, là, je ne l'ai pas en tête. Et déjà, le site d'Iwachu, c'est www.iwachu-burundi.org.
Cette émission a été réalisée par l'association Média Commun. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.
Plus d'infos sur le site de la Fédération française pour l'UNESCO au www.ffpunesco.org. Toto kabe barakela.
radio pour l'UNESCO.
Pour une culture de la paix.